Bonjour, toujours en direct de CNews, du congrès de l'UNSEN. On est jeudi matin, à l'heure de la pause, dans le débat sur le projet d'école, où les débats sont serrés, un peu chauds, donc il faut être très vigilant. Donc la pause café est nécessaire. Et aujourd'hui, nous recevons Christophe Godard, qui fait partie de la délégation du Var. Alors Christophe, tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Donc Christophe Godard, comme tu l'as dit, de Toulon, membre de la commission exécutive nationale de l'UNSEN, donc nationale. Donc je suis là en tant que délégué consultatif, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de vote sur tout, ce qui est un peu logique, on ne va pas voter sur notre propre activité. Et ma deuxième casquette, c'est que je suis au bureau et à la commission exécutive de l'UGFF, l'Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires, qui, comme son nom ne l'indique pas, ne regroupe pas toutes les fédérations de fonctionnaires, mais juste les fonctionnaires d'État. Et pourquoi faire simple à la CGT ?
Bien sûr. Mais avant de parler de ce que tu fais à l'UGFF, je voulais te remercier, car donc je voulais informer nos camarades, niçois et varois, et peut-être même de la France entière, que Christophe est venu en Harley-Davidson, ce qui peut vous dire que c'est à lui que revient la paternité d'une jingle.
Merci. Je ne demanderai pas de copyright, je vous rassure.
Donc dis-moi, si tu fais partie donc, du bureau national de l'UGFF, fais-tu partie des délégations qui vont négocier avec notre ministre de la fonction publique ?
Oui, oui, je fais partie de ces négociations-là. Je m'occupe moi plus particulièrement de la santé au travail, mais je suis aussi d'autres négociations comme les droits syndicaux, etc. Et je ne vais pas sur les négociations sur le, point d'indice, mais j'assiste à toutes les préparations. Et il arrive des fois d'y aller pour faire un petit peu de nombre, parce qu'on a besoin d'être nombreux des fois dans ces négociations-là.
Et nombreux et nombreuses ou juste nombreux ?
Oui, nombreuses et nombreux, les deux. Parce qu'au bureau de l'UGFF, on a la parité.
Ah. Donc, est-ce que c'est plus facile d'aller dans le ministère de Madame Le Branchu ou c'était plus facile d'aller discuter avec les précédents ministres de la fonction publique ?
Alors, à la rigueur, je dirais que c'est plus facile parce qu'on sent plus de respect. Parce que les précédents ministres de la fonction publique, c'était un petit peu compliqué parce qu'on en a eu toute une succession. Ils ont tous mal fini parce que j'ai commencé les négociations. Il y a eu Tron, il y a eu Santini, il y a eu Tron, il y a eu Woerth avant d'avoir Sauvadet. Donc ils ont tous un peu mal fini. Et il y avait du mépris, mais bon, à la rigueur, c'est pas grave parce qu'on les méprisait aussi. Du coup, avec Madame Le Branchu, c'est différent parce qu'on sent beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup de brosses à reluire sur les fonctionnaires. On sait bien le travail que vous faites, le fait que c'est indispensable à la nation, etc. Donc pour ça, c'est plus agréable au départ. Mais au bout du bout, c'est la même chose.
Oui, parce que, alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir ? Un ministre qui méprise ou un ministre empathique ?
Je pense qu'il vaut mieux avoir un maîtrise et un gouvernement qui répond aux revendications des salariés.
Un gouvernement qui donne.
Voilà.
Donc sur ton dossier... Donc Christophe, après une petite interruption due au bruit des travailleurs et des travailleuses du bar qui lavent les tasses de café des congressistes, est-ce que donc tu peux préciser donc le dossier dont tu t'occupes à l'UGFF, c'est-à-dire ?
Donc la santé travail, l'UGFF, il y a un F de trop. Mais c'est sûr que les sigles à la CGT, en plus, on connaît bien tout ça. Donc le dossier dont je m'en occupe depuis 2008 maintenant, de la santé au travail. Et ça nous a permis d'avoir l'accord signé dans la fonction publique sur la santé au travail du novembre 2009 et la déclinaison après qui nous a permis d'avoir les CHSCT enfin dans la fonction publique d'État et territoriale, c'est-à-dire qu'enfin on a le droit de parler des conditions de travail. voilà les conditions de travail, voilà. J'en ai pas fait exprès, mais c'est une illustration concrète.
C'est vrai qu'au niveau du bruit, on est bien servi dans ce congrès. Par exemple, tout ce qui a été rajouté là dans les fameux risques
psychosociaux.
Voilà, les risques psychosociaux, c'est vous aussi qui l'avez négocié.
Oui, voilà.
En sachant que la souffrance au travail aujourd'hui était quand même plus importante qu'il y a quelques années et ce n'était pas du tout pris en compte tout ce qui était.
Disons que maintenant on n'en parle plus, il y a plus d'informations et donc ça arrive plus. Donc les risques psychosociaux, ça a été quelque chose d'émergent, on n'en parlait pas avant puisque c'est un risque psychosocial, ça ne se voit pas. Ce qui amène, on le voit malheureusement quand on arrive à l'extrême, au suicide ou à la dépression, etc. Et donc l'accord sur la prévention des risques psychosociaux qu'on a signé en octobre, donc c'est, à chaque fois c'est moi pour l'État qui mène ces négociations-là. Cette négociation a duré 9 mois. C'était
un vrai bébé.
Voilà, un vrai bébé, un beau bébé en plus, je pense. On l'a signé, la CGT. Toutes les organisations l'ont signé à part deux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, c'est assez caractéristique de ce gouvernement. Il a voulu à ce qu'on ait un accord sur la prévention des risques psychosociaux, mais pour eux, le risque psychosocial, c'était un effet de mode. C'est-à-dire que la première mouture de l'accord faisait 2 pages. Le dernier en fait 20. Donc ça a été un peu plus compliqué. Et pour eux, d'ailleurs, c'était la première chose, ça a été de se mettre d'accord sur les termes. Qu'est-ce qu'un risque psychosocial ? Donc pour eux, c'était le stress, etc. Pour nous, c'est pas un risque, le stress. C'est une conséquence du risque.
D'accord.
Donc, il a fallu ramener là-dessus et tout ramener vraiment sur l'organisation du travail.
Parce que, par exemple, dans les écoles du primaire, la conséquence directe, ça a été une aggravation du travail des directeurs d'école qui ont dû remplir à nouveau un DUR informatisé et pour inclure donc les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Donc ça a été un petit peu mal perçu par l'ensemble du premier degré. Il a fallu que nous, syndicats, on rappelle que le DUR, c'était une demande des syndicats et que c'était quelque chose pour protéger les travailleurs et anticiper, prévenir.
Voilà.
Et que bon, et notre consigne syndicale, c'était aussi de dire que ce n'est pas le directeur tout seul dans son bureau qui doit le remplir. Même si tu m'as dit qu'en fait, le directeur n'avait pas à le remplir.
N'a pas à le remplir, c'est à l'autorité hiérarchique.
Mais pourquoi laisser l'IEN remplir quelque chose, enfin, il est peut-être le chef de service suprême, entre guillemets, mais il me semble quand même que donc, notre consigne, c'était que les directeurs d'école réunissent les conseils de maîtres et de maîtresses pour que justement chacun puisse parler, évaluer. Et en plus, dans les écoles maternelles, interviewer, je dirais, les ATSEM, le personnel municipal. Alors qu'elles-mêmes, elles ont un espace pour parler de leur risque professionnel et qui est peut-être mieux pris en compte que nous.
Alors ce qui est important, c'est même pas une question de le remplir, c'est qu'il signe. Parce que celui qui le signe engage sa responsabilité juridique, pénale et administrative. Donc je pense que c'est pas au directeur d'école de le signer. Là, on est sur le DAZN, ce sera lui de le signer. C'est sa responsabilité à lui. Il est hors de question que les collègues qui sont directrices et directeurs d'école, justement, prennent cette responsabilité. Ils y sont pour rien. C'est pas eux qui définissent les moyens et les conditions de travail dans l'école. S'ils avaient les coups des franches, peut-être que là, on pourrait avoir la responsabilité d'engager. Sauf que là, ils sont en train d'appliquer les mesures qu'on leur dit d'appliquer avec les peu de moyens qu'on leur donne. C'est ça le problème.
C'est pour ça que donc, les nouveaux DUR qui sont informatisés, il y a des buts déroulants et on ne peut pas tout écrire.
Alors, déjà, le DUERP, donc document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est obligatoire depuis 2001. Donc déjà, on est dans l'illégalité depuis 2001.
Oh mais on avait des DUR papier.
Ils étaient informatisés déjà, mais dans plein d'endroits.
Enfin, papier, on a le mémoire papier. Il fallait renvoyer la version papier, je veux dire, scannée à l'IEN, qui veut peut-être le renvoyer à l'IA, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils étaient remplis dans les écoles. On nous a fait la guerre pour cela.
Ben, on est dans une des rares académies, alors l'Académie de Nice où le DUERP est rempli. Alors. Parce qu'on est dans l'éducation nationale, c'est très 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 pauvre. Il y en a très très peu de DUERP remplis. Et notamment dans le second degré, il n'y en a quasiment pas. Et je ne parle même pas des registres hygiène sécurité ou des registres de danger grave imminent.
Ah, ça a été une priorité du département, alors je ne vais pas faire des compliments à notre administration. Mais c'est vrai qu'il me semblait qu'à un moment donné, j'ai entendu dire que dans notre département, il y avait 94% des DUR qui étaient remplis. Quoi.
Ouais, peut-être que tu m'as fait des chiffres.
Hein, et le passage à l'informatique, ça a été... on a rechigné parce que c'était encore du travail supplémentaire. Il fallait tout recommencer à zéro. Mais n'empêche que pour nous, l'important, c'était qu'on puisse, entre collègues, discuter des risques qu'on encourait. Et puis pour nous, qu'est-ce qu'un risque psychosocial ? C'est vrai qu'un trop d'élèves, pas de remplacement, je veux dire, toutes les revendications classiques habituelles sont ressorties.
Bien sûr.
C'est vraiment le
bien sûr, ce qu'on
quotidien.
Appelle aussi le stress du survivant, entre guillemets, quand il y a des suppressions de postes, etc. Il y a moins de personnel, mais le travail est toujours là. Enfin, le nombre d'élèves est toujours là. Donc c'est moins de personnel qui doit prendre en compte tout. Donc là, c'est des facteurs de création de risque psychosocial. Alors là, il y a eu un choix dans l'Académie de Nice, mais comme dans plein d'autres académies, de faire un document unique informatisé. Donc, mais ça, c'est un choix de l'administration. Il peut être papier, rien n'oblige à ce qu'il soit informatisé ou papier. Par contre, la prise en compte RPS plutôt que risques psychosociaux à chaque fois, des RPS, c'est aussi obligatoire depuis 2001. Donc il a fallu le rappeler dans l'accord. Et ce qui a fait que beaucoup de choses ont bougé, c'est que dans l'accord est prévu que les cadres dirigeants, donc c'est pas le directeur d'école, le cadre dirigeant,
bien sûr,
sera en prise en compte l'existence du DU, du DUR, et son existence et sa mise à jour régulière, ce qui doit être mis à jour minimum tous les ans.
Tout à fait.
Mais
tout à fait.
L'important, c'est justement cette évaluation des risques, c'est le code du travail, ça fait partie des risques de la prévention primaire, des principes de prévention, pour pouvoir ensuite essayer de supprimer les risques. Le premier truc, supprimer les risques, et après d'essayer de les évaluer pour remplacer par les choses moins dangereuses, il faut qu'ils soient évalués. Donc c'est important d'avoir ce DU, puisque ça permet d'avoir normalement tous les risques listés, cotés, en fonction de leur fréquence d'apparition et de leur importance. Et ensuite, ce qui est très très important, c'est la création du plan annuel de prévention. Et là, par contre, c'est dans les différents CHSCT, donc là c'est compliqué dans l'éducation nationale de CHSCT, c'est à partir de ce moment-là qu'on essaye d'avoir des mesures de prévention. Et si un risque a été évalué et dans le document unique et qu'il n'y a pas eu de plan de prévention et que malheureusement il y a eu un accident, etc., là c'est la faute inexcusable de l'employeur et c'est directement la prison, sans toucher les 20 000 euros.
Oui, bien sûr. Bon, bah écoute, je pense que tu pourras en parler des heures.
Oui.
Et que même si c'est passionnant, je pense que, ben écoutez, tout le monde sait que c'est Christophe Godard qui s'occupe de ces questions pour nous. Hein, pour nous, ouais. Et alors pour nous en particulier, finalement, puisque ouais. Tu es du Var et donc de l'Académie de Nice, donc vous avez qu'à taper Christophe Godard, hein. 3615, Christophe Godard, vous lui chantez une petite chanson en Harley Davidson et il pourra vous aider et vous répondre.
Alors, deux petits bémols. Donc je siège au CHSCT de l'Académie de Nice, mais moi je voudrais remercier ici, j'en profite, c'est Joël Denelin qui est mon suppléant et qui va beaucoup plus que moi au CHSCT, ouais. Puisque moi je suis à Montreuil permanent, donc c'est compliqué. Donc je voudrais le remercier pour tout le travail qu'il a fait. Pour l'Harley Davidson, on est deux congressistes, l'autre n'est pas venu avec, et le deuxième est une femme. Donc je tenais à le dire aussi, parce que les stéréotypes, etc., etc., voilà.
Eh bien, écoute, je te remercie et j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à nous écouter que nous à écouter Christophe.
Eh bien, merci et un gros bisou à Valérie également.
Eh bien, écoute, Valérie, toutes ces émissions te sont dédiées.